Benoît Peters, écrivain, scénariste et biographe, vous vous intéressez à des domaines variés qui vont de la bande dessinée, à laquelle vous consacrez plusieurs essais et pour laquelle vous êtes scénariste, à la cuisine, à laquelle vous avez accordé un cycle de conférences au Conservatoire des Arts et Métiers en 2018, en passant par la réalisation de documentaires audiovisuels. Dès votre adolescence, vous vouez un vif intérêt aux biographies en tant que lecteur assidu, intérêt qui vous a conduit à en écrire plusieurs. On compte parmi elles la biographie de Hergé, celle de Jacques Derrida et encore celle de Paul Valéry. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler de votre dernier ouvrage, publié chez Flammarion, Sandor Ferenczi, l'enfant terrible de la psychanalyse, qui traite de la vie et de l'œuvre de cet analyste qui, comme l'écrit Thierry Bokanowski, psychanalyste de la Société psychanalytique de Paris, dans l'ouvrage qu'il lui a consacré, a été successivement disciple, patient, ami et confident de Freud, mais aussi un des tenants les plus exceptionnels de la doctrine freudienne. Alors la première question qui nous vient nous pousse à vous demander ce qui a motivé votre démarche, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre dont vous dites qu'il est plus un portrait, un récit qu'une biographie classique ou un traité savant. Quelle est l'origine de votre intérêt pour Ferenczi ?
J'ai entendu parler de Ferenczi pour la première fois en classe de terminale, en philo, avec un professeur merveilleux qui nous ouvrait à toutes sortes de choses. On était quand même il y a pas mal d'années, dans les années 70, il parlait régulièrement de Lacan, de Freud, de Rank. Et à un moment, il nous a parlé de Ferenczi et de Thalassa. Et ça m'avait frappé, ça m'avait intéressé, ces hypothèses. J'étais assez lecteur de Freud, comme étudiant en philosophie dans les années qui ont suivi, et auditeur, quand je le pouvais, du séminaire de Lacan. Sans être directement impliqué dans la psychanalyse, je m'y intéressais de près comme lecteur, comme auditeur, et puis je me suis intéressé assez tôt à l'histoire de la psychanalyse, notamment je me souviens de ce livre qui m'avait beaucoup frappé de François Roustan, Un destin si funeste. Voilà, c'était un éclairage aussi sur les parts d'ombre de l'histoire de la psychanalyse. Je me souviens plus tard avoir lu le livre très remarquable de Michel Schneider qui s'appelait Voleur de mots, par exemple. Donc des lectures autour de la psychanalyse et bien sûr les biographies classiques, celle de Jones, celle de Peter Gay, le travail d'Elisabeth Roudinesco. Bon. Mais la psychanalyse n'est jamais totalement au cœur de ma vie, et j'avais quand même le sentiment que c'était un domaine difficile à aborder pour un profane. Déjà, quand j'ai écrit la biographie de Derrida, il y avait une position un peu d'outsider qui pouvait être dangereuse, mais j'avais l'impression d'un tabou un peu plus grand pour la psychanalyse. Et pourtant, dès le moment où j'ai lu le premier tome de la correspondance entre Freud et Ferenczi, qui est paru en français en 1992, je me souviens d'un grand papier dans le Nouvel Obs qui m'avait impressionné. Et donc, je me suis dit, je vais vraiment me précipiter sur ce gros livre, avec ses aspects austères, hein, parce que c'est une correspondance très annotée. Parfois, il y a des détails qui peuvent nous sembler lointains, un peu oiseux. Il y a même des considérations ferroviaires sur les meilleurs trajets entre telle ville et telle ville, etc. Donc, ce n'est pas une lecture évidente, mais son contenu essentiel, la nature de la relation entre Freud et Ferenczi, les tensions, l'histoire d'amour avec Elma, Gisela et la manière dont Freud y a réagi, tout ça m'avait suffisamment fasciné pour me donner envie d'attendre le tome 2, puis le tome 3, puis de lire le journal clinique, qui est un document exceptionnel, et peu à peu de me plonger et de me dire, il y a quelque chose à faire sur Ferenczi. Parce que je cherchais un peu, c'est une attitude que j'ai eue d'ailleurs aussi en écrivant sur Paul Valéry, parfois je cherche le bon livre qui serait la porte d'entrée. Et sur certains auteurs, il existe ce livre. Vous pouvez dire à quelqu'un, tiens, tu veux entrer dans telle œuvre, lis ceci en premier lieu. Et sur Paul Valéry, ça n'existait pas, alors je vais un peu essayer de le faire. Et sur Ferenczi, j'avais l'impression qu'il n'existait pas. Alors j'ai regardé peut-être en allemand, peut-être en anglais. Et somme toute, il y avait surtout des ouvrages techniques, des ouvrages pointus, des ouvrages d'analystes destinés aux analystes, mais pas d'ouvrages tout à fait introductif, donnant aussi peut-être à ce monde austro-hongrois, à la personnalité de Ferenczi, toutes leurs dimensions. Je dois reconnaître que je n'écris jamais de biographie froide. J'écris sur des gens qui me plaisent, me séduisent, auxquels je me sens attaché. Je trouvais la personnalité de Ferenczi très attachante, pas suffisamment connue, et pâtissant encore, il faut bien le dire, du dénigrement auquel s'était livré Ernest Jones dans sa biographie de Freud avec la légende noire des dernières années de Ferenczi, d'un Ferenczi dont les derniers textes seraient délirants, hors psychanalyse, devraient être oubliés. Voilà un peu la source. Donc tout ça m'a donné envie d'écrire. Ça n'a pas été simple, il a fallu réunir le plus de choses possible. Et puis, il se trouve que début 2016, il y a eu un incendie qui a détruit mon immeuble et mon appartement et toute ma bibliothèque ferenczienne et toutes les notes que j'avais commencé à prendre. Le travail a été interrompu. J'ai peu à peu retrouvé un certain nombre de livres, l'enthousiasme et l'énergie pour finir finalement cet ouvrage au printemps dernier, au début du confinement.
Alors, elle a mis un certain temps, cette correspondance, à être publiée entre Freud et Ferenczi.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. La correspondance Freud-Ferenczi et le journal clinique sont des textes rescapés. D'abord, rescapés de la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Parce que l'archive Ferenczi, c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui vraiment une biographie classique. Beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'archives hongroises ont disparu. Et donc, le journal clinique et la correspondance avec Freud ont été sauvés par la femme de Ferenczi, Gisela, et puis par Michael Balint, quand il est parti en 1939 en Grande-Bretagne. Ils ont été sauvés pendant toute la guerre. Et après la guerre, les contacts ont été repris avec Anna Freud, qui avait été proche de Ferenczi, qui avait de bons liens, qui connaissait bien Gisela aussi. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire de ça. Et donc la première approche était une anthologie. On allait extraire des lettres, un peu comme on l'a fait d'abord pour la correspondance Freud et Fliess, sa première édition. Il y avait un tabou sur l'édition complète. Jones, notamment, disait que c'était très ennuyeux, qu'il y avait beaucoup trop de détails médicaux concernant la santé de Ferenczi, qui était pesant. Mais plus profondément, et là c'est un peu le point commun avec la correspondance avec Fliess, l'image qui en sortait de Freud ne correspondait pas à celle que Anna Freud voulait promouvoir. La position de maîtrise de Freud était quelquefois mise à mal. Et donc, somme toute, il a fallu attendre, malgré les efforts de Balint, qui a assisté plusieurs fois, il a fallu attendre la mort d'Anna Freud en 1982, donc là on est après la mort de Balint, pour que le journal clinique et la correspondance puissent paraître. Il y avait le tabou sur cette histoire d'amour enchevêtré, dans laquelle Freud avait été impliqué, puisqu'il a été l'analyste non seulement de Ferenczi, mais d'Elma, la jeune femme dont il était amoureux. Il s'est mêlé de ce mariage, et tout ça était un petit peu sous le sceau du secret. Et puis finalement, on s'est rendu compte que cette correspondance était la plus intime de Freud, d'abord. C'est la plus personnelle, la plus passionnée, et puis qu'elle était d'une richesse intellectuelle et humaine extraordinaire. Voilà, donc je pense que c'est un document qui fait pleinement partie de l'œuvre de Freud et de l'œuvre de Ferenczi. Cette correspondance, ce n'est pas... Et parfois, une correspondance peut être anecdotique. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel et que je crois assez inséparable du journal clinique, qui, au fond, relie un petit peu les mêmes choses. Donc, voilà, il a fallu très longtemps, au fond, pour qu'on prenne la mesure de Ferenczi. Et quand on voit les premières approches françaises, celles de Granoff ou celles de Lacan de manière plus incidente, Granoff a vraiment écrit, Lacan a plutôt fait des allusions, on s'aperçoit qu'ils ne connaissent qu'une toute petite partie de l'œuvre. Donc le lent travail de résurrection accompli par Balint, par Granoff, par Judith Dupont et par le groupe du Coqueron a vraiment eu lieu en France de manière privilégiée. Et sans la France, sans ces quelques personnes qui ont vraiment voulu arracher Ferenczi aux ténèbres et restituer l'actualité de sa personne et de sa pensée, sans la France, on n'aurait pas aujourd'hui cet intérêt aux États-Unis, en Italie, en Allemagne et ailleurs. Aujourd'hui, je me réjouis, par exemple, que la première traduction de mon livre doive avoir lieu en Hongrie, où Ferenczi est tout à fait oublié. On a la dernière maison de Ferenczi, on a ça et là des traces, mais les œuvres ne sont quasi plus disponibles, et pendant longtemps, évidemment, avant même la guerre, et après la guerre, sous les régimes communistes, la psychanalyse a été difficile à pratiquer, et l'œuvre de Ferenczi enterrée. Donc voilà, c'est un travail énorme, et au fond, c'est pour ça que ma biographie se prolonge au-delà de la mort de Ferenczi et va jusqu'à nos jours. Au fond, Ferenczi aurait pu être un oublié de l'histoire. Il aurait pu passer comme ces figures secondaires de la psychanalyse dont on sait qu'elles ont été importantes historiquement, mais qui ne sont plus lues. Or, aujourd'hui, je crois que pour beaucoup d'analystes, et par-delà les analystes, d'ailleurs pour beaucoup de thérapeutes, de passionnés de l'enfance, et même certains grands publics, Ferenczi redevient un penseur très important et très actuel.
Alors, je reviens un peu, si vous permettez, sur la question de l'amitié entre Freud et Ferenczi. Elle est décrite comme assez tumultueuse. Vous en parlez comme de l'histoire, dans votre livre, d'une amitié presque impossible, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, il y a une différence de génération entre Freud et Ferenczi. Freud naît en 1856, Ferenczi en 1873, donc 16-17 ans d'écart. Pas tout à fait la position d'un fils, mais assez rapidement, c'est de chose là qui va s'agir, c'est-à-dire que Ferenczi a perdu son père très tôt, un manque paternel, et même si c'est déjà un homme mûr et respecté quand il rencontre Freud pour la première fois en 1908, donc il va avoir 35 ans, c'est vraiment un psychiatre, une figure intellectuelle très reconnue à Budapest, qui a publié beaucoup de textes, mais il se place d'emblée dans l'admiration par rapport à Freud. La rencontre est un éblouissement, un choc, on pourrait presque dire une conversion. Il va se faire un propagandiste zélé de la psychanalyse, un disciple zélé, y compris dans les conflits et les conflits avec Jung qui arrivent dans les années... Jung qui était le disciple élu et qui va devenir l'ennemi à battre dans les années d'immédiate avant-guerre. Et il va avoir du mal, Ferenczi, à se défaire de cette position filiale. Quand Lou Andrea Salomé le rencontre et parle longtemps avec lui, elle est frappée par la puissance intellectuelle de Ferenczi et en même temps son inhibition à écrire. Mmh. C'est elle qui aura cette formule que j'ai prise un peu en exergue de mon livre, « Le temps de Ferenczi doit venir ». Et elle dit à Freud, « Ferenczi devrait s'autoriser, ou il faudrait autoriser Ferenczi à poser toutes ces initiatives intellectuelles ». Bien sûr, Freud voyait sa brillance, puisque dès 1909, donc un an après leur rencontre, Ferenczi propose un texte très important qui est « Transfert et introjection », avec le concept d'introjection que Freud reprendra et développera. Un peu plus tard, il y a le fameux texte sur Arpad, le petit homme coq, qui fait aussi l'admiration de Freud. Mais en même temps, à plusieurs reprises, on sent bien que ça reste le disciple et le maître. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est frappante, c'est quand on voit les lettres, on a toujours chez Ferenczi « cher monsieur le professeur » et chez Freud « cher ami ». Freud ne lui dit pas « allez, Sandor, allez-y, passez à cher ami, vous aussi ». Donc, il reste cet écart. Et au moment de l'émancipation de Ferenczi, pendant les années 20, Freud a une attitude très ambivalente. Il l'encourage à prendre des initiatives et en même temps, les initiatives souvent lui déplaisent et il dit « bon, ben oui, il fallait prendre son autonomie, mais pas tout à fait comme ça ». Il a peur de la relation avec Rank. Oui. Il a peur du caractère passionné de Ferenczi, qui comme thérapeute, bon, on le sait, c'est un clinicien extraordinaire, mais qui s'investit là où Freud prend peut-être ses distances par rapport à la pratique analytique, surtout au moment de son cancer, où ça devient plus pénible, parler lui devient plus pénible, même entendre, accueillir des patients de langue anglaise, etc. Donc l'écart va peu à peu se creuser jusqu'à l'incompréhension finale autour des plus grands textes de Ferenczi, notamment « Confusion de langue entre les adultes et l'enfant ».
Alors, il y a effectivement chez Ferenczi, d'ailleurs, Thierry Bokanowski le rappelle dans l'ouvrage qu'il lui a consacré, en des termes analytiques, un transfert massif et idéalisant de Ferenczi sur Freud. Transfert et contre-transfert dont ils ont eu peut-être peine à se sortir l'un comme l'autre. Enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse qu'avance Thierry Bokanowski. Freud s'est aussi un peu agacé quand même de ce que Ferenczi ne se sortait pas de cette position filiale. Il attendait un petit peu plus de répondants de sa part.
C'est vrai, mais oh, mais putain, il y a un moment célèbre qu'on appelle l'incident de Palerme, au cours du voyage qu'ils ont fait ensemble pendant la fin de l'été 1910 en Sicile. Voyage merveilleux, ils partageaient la passion de l'Antiquité, des ruines, ils ont dû découvrir la Sicile dans un état incroyable, mais ils rêvaient de travailler ensemble, enfin, ils avaient projeté de travailler ensemble sur les mémoires du président Schreiber.
Voilà.
Or, le premier soir, dans la chambre d'hôtel, l'hôtel de France, ils avaient deux chambres, Ferenczi se rend compte que Freud attend de lui un travail de secrétaire. et de prendre un peu note sous la dictée. Il lui dit, mais ce n'est pas comme ça. Enfin, l'incident est relaté dans plusieurs lettres, hein. Je n'étais pas là, évidemment. Ce n'est pas comme ça que j'entendais cette collaboration. Je pensais que nous allions vraiment y réfléchir ensemble. Et Freud lui répond de manière sèche, hein, c'est comme cela que vous êtes, vous voulez prendre le tout. Il ne voulait pas prendre le tout, il voulait prendre sa part. Il rêvait à ce moment-là de dépasser peut-être la position filiale, d'aller vers une position plus fraternelle ou de complicité intellectuelle. Et Ferenczi a l'intelligence, on peut presque dire le génie, de sentir tout de suite ce qu'il y a derrière ce blocage de Freud, cette fermeture, qui est l'affaire Fliess. Et il lui dit, mais vous avez peur que ça recommence comme avec Fliess. Que peut-il savoir de Fliess? Parce que Freud n'en parlait guère. Mais Freud reconnaît tout de suite que pendant ce voyage en Sicile, tous ses rêves ont tourné autour de Fliess. Donc là, Ferenczi a vraiment tapé juste et senti que ce moment qu'il y avait eu de relation égalitaire, et même un peu moins qu'égalitaire, parce que d'une certaine façon, Freud est le dominé dans la relation avec Fliess, il est dans l'admiration pendant longtemps, que cette relation-là ne pouvait plus jamais se reproduire. Il y a la phrase célèbre qui est dans une lettre de Freud, « J'ai réussi là où le paranoïaque échoue ». Donc vous comprenez bien qu'évidemment, Schreber, etc., ça réveillait tout. Et là, il y a une petite blessure qui nous dit que Freud demandait à Ferenczi de s'émanciper, mais qu'en même temps, il ne lui facilitait pas vraiment la vie. Chose qu'on retrouvera au moment où il écrit avec Rank « Perspectives de la psychanalyse », d'abord encouragé par Freud, puis une fois le livre publié, critiqué assez vivement par Freud et par les autres membres du comité secret.
Et vous écrivez d'ailleurs que, enfin je vous cite, qu'en lisant l'ensemble des lettres de Freud à Fliess, on est stupéfait de les découvrir dans la position de disciple soumis, où se tiendra souvent Ferenczi par rapport à lui. Hein, comme si vous avanciez là la possibilité d'un renversement.
Oui, bon, voilà, c'est vrai que c'est un assez long chapitre qu'il y a dans mon livre et qui pourrait sembler presque une digression, mais je crois que c'est très important de voir que Freud n'a pas toujours été, n'a pas d'emblée été ce maître, et que le Freud d'avant la publication de l'interprétation du rêve est un Freud encore incertain et fragile, soumis à Fliess jusque dans les erreurs les plus criantes. Enfin, il y a la terrible affaire Emma Eckstein que je rappelle. Et tout cela, au fond, est un peu ravivé par Ferenczi. Et puis, il y a cette différence sur laquelle insiste toujours Judith Dupont et que je trouve très, très importante, qui est que l'orientation de Freud va aller de plus en plus vers le savant, vers le scientifique, et l'orientation de Ferenczi de plus en plus vers le thérapeute, vers le clinicien. C'est notamment un sujet aussi d'affrontement avec Abraham, où il y a une sorte de théorisation ou d'envie presque de pédagogie par rapport aux analysants, et Ferenczi part, lui, de l'idée qu'il y a une intensité qui doit être revécue dans la cure et qu'il ne s'agit pas d'expliquer à l'analysant ce qui lui arrive, mais bien de lui permettre de descendre jusqu'aux profondeurs du trauma. Et sur la question du trauma, évidemment, et sur la question des neurotica, de la théorie de la séduction, l'opposition se cristallisera dans les dernières années. C'était point, évidemment, moi je ne suis pas analyste, donc je n'ai pas toutes les clés pour lire cet affrontement, mais en tout cas, quand on le prend dans les textes et dans les lettres, on voit bien que quelque chose de fondamental se joue là, non seulement pour Freud, mais la communauté psychanalytique. On ne peut pas revenir sur la question de la théorie de la séduction. Ce qui se passe aujourd'hui et ce qui revient au grand jour et la question des abus de l'inceste telle qu'elle sort semble rétroactivement donner raison à Ferenczi, en tout cas. Oui. En tout cas, alors, faire que sa pensée sur le trauma ne peut pas être balayée comme elle l'a été à l'époque.
Elle ne peut pas être balayée et sans doute que le risque serait qu'elle ne vienne balayer aussi tout ce que Freud a pu dire sur la théorie du fantasme. Et voilà, à mon avis, c'est une des questions importantes que soulève votre livre, parce que plutôt que de considérer les choses sur un mode d'opposition, dans la pratique des analystes actuels, dans les avancées des travaux qu'on peut conduire à la Société psychanalytique de Paris, mais aussi dans d'autres sociétés, il semble quand même qu'il y ait quelque chose qui se superpose et pas qui s'oppose, qui se complète. D'autant que Ferenczi était d'ailleurs très très imprégné par Freud.
Je pense d'ailleurs, là il faut être très clair, jusque dans les pages les plus dures du journal clinique ou dans les lettres les plus tendues de la correspondance, il y a reconnaissance, toujours chez Ferenczi, du caractère indissociable de sa pensée, de celle de Freud. C'est-à-dire qu'il a ajouté des couches, il a transformé des choses, mais il ne s'est jamais situé, comme Jung ou Rank, dans une opposition. Il n'a jamais, par exemple, renié le complexe d'Édipe. Quand il analyse Thalassa, tout ce qui est autour de la séparation, etc., il ajoute une couche. Et dans ses réflexions sur la pratique psychanalytique, beaucoup de ses textes sont quand même liés aussi à ce qu'il appellera l'élasticité de la pratique analytique, il ajoute des dimensions que Freud va reprendre. Et il y a un texte qui est très important, parce que Ferenczi y apparaît deux fois, c'est le fameux texte de 1937, Analyse terminée, Analyse interminable, avec fin ou sans fin, enfin, il y a plusieurs traductions, où on voit que Ferenczi est utilisé à un moment sans être nommé, comme un analyste ayant connu de grands succès, etc., mais butant sur la fin, et à d'autres moments cité dans son texte sur la fin de l'analyse, où Freud, ayant sans doute, grâce à Baline, découvert quelques-unes des notes tardives de Ferenczi, essaye de lier davantage leurs deux théories et de se dire que peut-être en 1933, dans les derniers mois de la vie de Ferenczi, il est lui-même passé à côté de quelque chose. Donc je crois qu'il y a chez Ferenczi une construction originale, mais qui ne se conçoit jamais comme un affrontement.
Bon, il est vrai que les apports de Ferenczi ne me semblent pas remettre en question toute la théorie sur la sexualité infantile, telle que Freud a pu la décrire.
Mais la notion de confusion de langue et la manière dont Ferenczi la formule, le langage de la tendresse et le langage de la passion, la place qu'il accorde au déni comme constituant le trauma, le refus d'écoute, souvent par la mère, du trauma qui est survenu, je trouve que ça résonne extraordinairement par rapport à toutes sortes de témoignages qu'on a entendus récemment. Et là, ce sont des textes forts. Ça ne veut pas dire qu'il faut les prendre pour argent comptant, mais simplement qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui qu'ils aient pu susciter un tel scandale. Qu'ils aient été discutés, ce n'est pas un problème, mais qu'ils aient été rejetés ou considérés comme nonsense, ou comme fruit d'un esprit malade, qu'on ait confondu l'anémie pernicieuse dont souffrait Ferenczi avec un délire, ça nous paraît aujourd'hui très très bizarre, parce que ces textes sont extrêmement organisés. Autant le journal clinique est un texte encore en brouillon, en gestation, une pensée qui s'invente, autant les derniers grands articles sont des textes parfaitement rationnels et remarquablement écrit et pensé. Donc là, il y a quelque chose, il a fallu un long travail pour que ces textes-là soient publiés, acceptés et discutés. Mmh. Un de ses premiers articles s'appelle « Sur les erreurs de diagnostic ». Il lui dit « Pourquoi avons-nous tant de mal, et surtout les mandarins de l'époque, à revenir sur nos erreurs de diagnostic ?» Et dans sa pratique de la psychanalyse, on peut dire qu'elle sera toujours une pratique inquiète. Est-ce que l'analyste a été suffisamment analysé ? Est-ce que l'analyse dite didactique n'est pas un leurre ? Est-ce que l'analyse de contrôle n'est pas superficielle ? Ce sont des questions d'autant plus intéressantes que Ferenczi lui-même, par la force des choses, n'avait pas vraiment été analysé. Les premiers analystes ne l'ont pas été. Lui-même l'a été avec Freud, mais de manière brève et souvent, trop souvent interrompue par diverses circonstances, même si Yves Lugrin, dans son livre « Ferenczi sur le divan de Freud », considère que la correspondance dans son ensemble fait partie de l'analyse. Il y aura donc plusieurs essais. Il va y avoir la technique active qu'il promeut à un moment, et puis il revient sur les maladresses qui peuvent être induites par la technique active, et donc emploie la formule d'élasticité de la technique psychanalytique, donc de l'adaptation à chaque cas, de l'idée qu'au fond, il n'y a pas de technique absolue. Et puis, il y aura, à la fin de sa vie, des expériences, notamment avec la patiente désignée comme sous les initiales RN dans le journal clinique, qui est Elisabeth Severn, mais aussi avec quelques autres patientes, Clara Thompson, Isette de Forest, etc., où il va aller jusqu'à pratiquer l'analyse mutuelle. Et donc, il se rend compte d'ailleurs, il est le premier à se rendre compte des limites de l'analyse mutuelle, y compris par la jalousie qui est créée entre analysants, mais il en reconnaît à plusieurs moments les apports. Et puis, il va y avoir cette chose que Grodeck dira à la veuve de Ferenczi quelques mois après sa mort, il y a cette dimension d'absolu, cette volonté de soigner jusqu'au boutiste, de ne pas se satisfaire d'une réussite partielle, Ougredec dira que Ferenczi s'y est abîmé, s'y est presque autodétruit. Oui. Il disait « j'atomise l'âme hein. ». C'est une expression de Ferenczi. Évidemment, en atomisant l'âme, peut-être lui-même a été au-delà de ses propres forces physiques et psychiques. Et de ce point de vue-là, il y a dans les grandes intuitions ferenczienne aussi un lien avec une dimension presque sacrificielle qu'on ne peut pas lui reprendre. Et ça, il dit, par exemple, à un moment dans une des dernières notes du journal, un des derniers fragments, « Balint a repris les choses là où je me suis arrêté oui. ». C'est-à-dire, sans doute, il est allé trop loin. Il avait cette fureur de guérir, hein, que Freud lui a reproché parfois, « fureur sanandi ». Et à ce titre-là, il y a une passion, Ferenczi, mais une passion peut-être aussi dangereuse, qui moi, en tant qu'écrivain, en tant que biographe, me touche et me séduit, mais évidemment, de même qu'on ne peut pas séparer peut-être la pensée de Lacan de ce que Lacan a été comme être et comme thérapeute et comme aventure individuelle, il y a quelque chose de la pensée de Ferenczi qu'on ne peut pas séparer de l'individu qu'il était, quoi, de l'être brûlant, anxieux, traumatisé lui-même dès l'enfance, souffrant d'un manque d'amour, ayant perdu son père très tôt. Il y a toute une série de dimensions qui font que, par exemple, le moindre conflit avec Freud a été vécu par lui sur un mode pathétique oui. et extrêmement douloureux ou tragique, alors que peut-être d'autres ont vécu des conflits avec Freud sur un mode moins passionné. Mais ces dimensions-là, excessives, disons, hein, ou brûlantes, pour moi, rendent Ferenczi particulièrement attachant et son aventure extraordinaire. J'emploie l'expression reprise à un titre de Leonard Cohen de perdant magnifique, beautiful loser. Il y a cette dimension-là, et si elle peut séduire, elle peut aussi faire peur.
Il y a des pages d'ailleurs dans l'ouvrage que Thierry Bukowski a consacré à Ferenczi qui font un peu le pendant hein, de ce que vous décrivez en tant qu'écrivain. Thierry Bukowski en parle en tant qu'analyste et reprend toute la question sur les transferts et contre-transferts, tant du côté de Freud que du côté de Ferenczi, qui n'ont pas été analysés et qui se sont vraisemblablement agis dans la question de l'analyse mutuelle, dans la question notamment du journal clinique.
Oui.
Hein, donc c'est vrai que ce sont des pages qui me semblent complétées, en tout cas qui, dans ma lecture, m'ont permis de compléter aussi votre approche.
On pourrait reprocher à mon livre et ma démarche peut-être d'avoir fait une place plus grande aux sources primaires qu'aux sources secondaires. Je me suis appuyé davantage sur les textes de Ferenczi et les correspondances et tous les documents que j'ai pu trouver que sur les ouvrages de Thierry Bukowski, de Pierre Sabourin et de quelques autres. Mais c'était aussi parce que mon livre avait la volonté de ne pas s'adresser en priorité à la communauté oui. psychanalytique. Et je n'aurais d'ailleurs pas eu de légitimité pour le faire, même si j'ai un peu aujourd'hui l'audace de parler avec vous sur ces matières-là, y compris techniques. Mais je voulais aussi faire connaître Ferenczi à un autre public, montrer une histoire des débuts de la psychanalyse où il y a du bruit et de la fureur, certainement, oui. mais où il y a aussi de l'invention, de la générosité, des obstacles immenses dont il faut se souvenir. Et donc, toute cette histoire, ce n'est pas celle d'un savoir dogmatique qui se serait construit, mais d'une aventure. Et que tous ces concepts de contre-transfert, de transfert négatif, cette idée d'analyse didactique, l'idée de l'analyse profane, dont Ferenczi a été un des propagandistes, ce qui lui a valu aux États-Unis difficultés avec oui. Brill et d'autres. Tout cela, c'était une scène vivante. Et que, par exemple, Ferenczi se trouvait tantôt en plein accord avec Freud. Freud qui lui dit au moment de l'analyse profane, au fond, vous êtes le seul à être vraiment d'accord avec moi oui. sur cette question vitale. Et à d'autres moments, ils sont en désaccord, mais en désaccord créatif. Le tragique n'arrive qu'assez tard, et le tragique arrive aussi parce qu'à un moment, le dialogue est moins régulier, les rencontres sont moins fréquentes, d'autres se mêlent et intriguent contre Ferenczi, et donc cela devient irrémédiable. Alors que pendant beaucoup, beaucoup d'années, les tensions qui a pu avoir entre eux été suivis de moments de réconciliation. D'ailleurs, souvent, il y avait des tensions dans les lettres et des grandes réconciliations dans les entretiens à Vienne.
Mais d'ailleurs, on perçoit très bien, je trouve, dans votre ouvrage, ce mouvement très vivant d'une psychanalyse en train de se créer, d'être échangée entre les uns et les autres. De tout ça dans une époque intellectuelle très foisonnante de l'Europe. Et alors, c'est pour ça qu'en même temps, par moment, quand vous parlez d'une opposition entre théoriciens et praticiens, c'est peut-être sur la fin, je crois qu'on peut parler ainsi de Freud et de Ferenczi, parce qu'au départ, ce sont tous les deux quand même des cliniciens et des théoriciens.
Bien sûr, hein, bien sûr, mais il y a un moment où Freud va parler à Ferenczi de son splendide isolement dans l'île des rêves, etc.
Oui.
Et c'est peut-être parce que dans la confrontation de Ferenczi sur sa pratique, à un moment, le lien devient plus difficile. Mais sinon, il faut se souvenir de l'intimité extrême, par exemple, dans toutes les phases de deuil qui les ont secoués l'un et l'autre. Le deuil autour de la mort de la fille de Freud, puis de son petit-fils, toutes les conséquences de la Première Guerre mondiale, toutes les difficultés qu'ils rencontrent les uns et les autres, ils sont là ensemble dans un rapport d'extrême, d'extraordinaire confiance. Tout ce qui est dit aussi autour du cancer de Freud et de l'immense souffrance qu'il va vivre dans les dernières années de sa vie, tout en gardant quand même sa place, sa position et sa créativité intellectuelle, tout cela s'exprime aussi avec beaucoup d'amitié. Hein. Alors, c'est une amitié difficile, mais c'est aussi peut-être un livre sur l'amitié et sur les fragilités, les difficultés et les dissymétries qui sont au cœur
oui.
de l'amitié.
Oui.
Hein. Le fantasme qu'il y aurait d'une amitié égalitaire, comme ça, où tout serait partagé, et puis la réalité d'une amitié plus tourmentée, mais quand il s'éloigne irrémédiablement vers la fin 32 et 33, et Ferenczi lui dit, mais tout ça ne peut pas faire oublier 24 années de relations suivies et de pratiques communes, et Freud lui dit, mais c'était beaucoup plus que cela, c'était 24 années de vie partagée. Et ça, voilà, par exemple, cette douleur de Freud quand il perd Ferenczi, elle est presque l'égale de la douleur de Ferenczi en perdant Freud, et je pense qu'elle nous donne aussi de Freud une image plus humaine et moins froide, et certainement que mon livre n'est en aucune façon, et c'était une des difficultés peut-être en écrivant, et peut-être qu'il aurait eu plus de succès grand public si j'avais été plus manichéen. Il y avait des gens qui avaient envie de me dire, oui, mais au fond, Freud, c'est le méchant Freud, c'est le Freud qui rejette, c'est le maître dur, et Ferenczi, c'est le... Non, c'est pas ça l'histoire que je raconte. Il y a aussi des moments où Ferenczi est dans une position assez déplaisante. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut entendre l'expression un peu stéréotypée et figée d'enfant terrible de la psychanalyse. Mmh. Je crois que la première chose à entendre avant terrible, c'est enfant. Mmh. Il y a l'enfant qui est là. Dans ses analyses, il y aura toujours l'enfant dans l'adulte.
Oui.
Mais lui-même gardera cet élément d'enfance, d'enthousiasme, de naïveté, de chagrin, qui le caractérise très fort et qui est très loin de Freud. Freud, quand même, devient un monsieur, un père de famille. Ferenczi, lui, n'a pas eu d'enfant. Et c'est une différence fondamentale entre eux et que je pense que les analysants et les analysantes devaient sentir. Réveiller l'enfant chez Sandor devait se faire sans beaucoup de difficultés.
Merci d'avoir accepté cette interview que nous aurons la joie de diffuser sur le site internet de la Société psychanalytique de Paris.